France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Washington désigne la Chine et la Russie comme les principaux adversaires des États-Unis sur l'échiquier mondial. Le Kremlin accuse Donald Trump de s'accrocher à un monde unipolaire. Pékin parle de mentalité de guerre froide. Analyse dans un instant avec Eric Biegala. Une nouvelle télévision russe proche du Kremlin qui a commencé d'émettre en français son nom RT pour Russia Today. Précision d'Abdelhak El Idrissi dans cette édition. Le nouveau chancelier autrichien Sébastien Kurz multiplie les déclarations de fidélité à l'Union européenne. Il se rend à Bruxelles ce soir pour rencontrer les présidents de la Commission et du Conseil. Correspondance de Pierre Benazé. La popularité en hausse d'Emmanuel Macron après avoir fortement chuté cet été. Elle gagne 9 points dans une dernière enquête. Commentaire de Stéphane Robert. À l'instant, dans un communiqué publié sur le site du Conseil national du numérique, Marie Ekland, la présidente de cet organisme, annonce avoir présenté sa démission à Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Démission qui intervient quelques jours après la demande de Mounir Majoubi d'écarter Rokhaya Diallo de cet organisme consultatif. L'invité du journal, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jasper.
Eh bien, la dernière partie de la Grande Table, madame la ministre, c'est l'actualité des idées et des savoirs. Et on fait chaque jour la part belle aux chercheurs français, notamment aujourd'hui Michel Calon, sociologue, qui va nous donner une autre image des marchés à travers cette longue enquête sociologique. L'emprise des marchés, comment comprendre leur fonctionnement pour pouvoir peut-être les changer, ça paraît à la découverte. Il est notre invité à partir de 12h55.
L'Amérique d'abord, une nouvelle fois, Donald Trump s'est appuyé sur son slogan de campagne pour retracer les lignes de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Document publié hier soir, la Maison-Blanche y affirme que la Chine et la Russie sont les principaux adversaires des États-Unis sur l'échiquier mondial, des concurrents même qui menacent directement et la sécurité et la prospérité des États-Unis. Le Kremlin dénonce ce matin le caractère impérialiste de ce rapport et accuse Washington de s'accrocher à un monde unipolaire. Pékin parle de son côté de mentalité de guerre froide. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Que dit précisément ce document stratégique?
Alors, il est censé préciser la politique de sécurité des États-Unis, celle qu'entend mettre en œuvre l'administration Trump. Et en l'occurrence, cette nouvelle politique repose, énonce le document, sur quatre principes directeurs, quatre piliers. Premièrement, il s'agit de protéger le pays, le peuple et le mode de vie américain. Dans le détail, cela signifie par exemple déployer des batteries de missiles antimissiles sur le sol américain, mais aussi renforcer les contrôles aux frontières et la politique d'immigration. Second pilier, la politique de sécurité américaine façon Trump, promouvoir la prospérité de l'Amérique. Et pour ce faire, Donald Trump annonce une politique d'accords bilatéraux. Fini les grands accords multilatéraux façon accord de Paris ou traité transpacifique. Des accords bilatéraux où l'Amérique doit trouver son compte. Mais promouvoir la prospérité américaine, cela signifie aussi faire en sorte que les États-Unis soient et demeurent une puissance dominante, c'est le terme utilisé, en matière d'énergie. Troisième principe, préserver la paix, mais grâce à la force. Réactualisation du bon vieux principe latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. Concrètement, il s'agira de faire en sorte que les forces armées américaines puissent surclasser systématiquement n'importe quel adversaire, et ce dans tous les domaines, mais le document n'est pas plus précis quant aux moyens nécessaires pour y parvenir. Enfin, quatrième pilier de cette politique de sécurité, faire gagner l'Amérique en influence sur le plan international. Cela signifie premièrement aider les entreprises américaines à investir dans les pays émergents ou en développement, mais aussi mettre en forme et même réformer les institutions financières internationales telles que le FMI ou l'OMC, dans un sens plus favorable aux intérêts économiques américains, bien sûr.
C'est un rapport qui est publié au moment où est annoncé le report de la visite que devait effectuer le vice-président Mike Pence au Proche-Orient, officiellement en raison du vote au Sénat de la réforme fiscale, grande réforme de Donald Trump. Et en sa qualité de vice-président, eh bien Mike Pence peut en effet apporter la voix décisive pour son adoption au Sénat, où les Républicains disposent d'une courte majorité, 52 voix sur 100. Alors si on rapproche les deux informations, annulation de ce voyage de Mike Pence et vote au Sénat de la réforme fiscale, on pourrait penser finalement que America Great Again, ça concerne d'abord la politique domestique américaine, plutôt que l'influence internationale.
Oui, il faut bien voir que l'énonciation même de cette nouvelle politique stratégique façon Trump et par le président lui-même ressemblait beaucoup à l'un des discours de campagne du candidat Trump, pressé qu'il était par exemple de mettre en accusation toutes les politiques menées par les administrations passées, notamment bien sûr celle d'Obama. Et si Donald Trump a bien désigné dans son discours la Russie et la Chine comme des puissances révisionnistes ou des rivaux, c'était pour aussitôt mettre en avant les partenariats qui pouvaient être trouvés avec ces rivaux-là. À cet égard, le texte du document de politique stratégique est lui beaucoup plus plus incisif à l'endroit de Moscou ou de Pékin. Mais il faut dire que le sujet des rapports avec la Russie est légèrement épineux pour l'administration Trump. Le procureur spécial Robert Mueller enquête toujours sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et Moscou lors de l'élection présidentielle de 2016. Et de fait, les rapports entre l'exécutif américain et la Russie poutinienne sont aussi devenus une question de politique intérieure aux États-Unis.
Merci Eric Begala.
La suite de votre journal, Antoine Mercier, à propos de l'idéologie qui prévaut à Washington. Une information révélée par le Washington Post le week-end dernier. Elle concerne les 7 mots ou expressions dont l'usage vient d'être interdit aux autorités de santé par l'administration Trump.
Et oui, et en voici la liste donc. Fœtus, transgenre, diversité, vulnérable, avoir le droit, fondé sur la science, fondé sur les faits. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
On voit bien l'idée générale que cette liste amène à l'esprit, mais on peut aussi s'interroger sur la logique d'une telle liste.
En tout cas, ces 7 termes bannis seraient, selon le ministère de la Santé, controversés. Fœtus, transgenre, diversité, on voit bien, en effet, l'idée générale. Pour des organismes de santé, nous parlons là des CDC, les centres américains de contrôle des maladies et des documents préparatoires à leur budget, qui seraient donc frappés de cette interdiction. Cela peut être très dangereux. Et nous entrons dans une savoureuse novlangue, car l'administration Trump suggère des formules de remplacement pour certains de ces termes. Ne dites plus « fondé sur les données scientifiques », donc, mais le CDC base ses recommandations sur la science en prenant en compte les normes et souhaits de la communauté. Quelle communauté ? L'opinion publique ? L'administration Trump souhaite-t-elle relativiser les faits scientifiques, voire les faits tout court, considérant que la réalité est essentiellement subjective ? En tout cas, les faits, l'apostrophe, est d'effacer certaines communautés. Les LGBT n'ont déjà plus leur page, qui évoquait les questions d'adoption et de trafic sexuel, effacer des réalités que l'on ne souhaite pas voir, ou des groupes dont on ne souhaite plus s'occuper. Résultat, en effet, certains programmes qui ne peuvent utiliser de circonvolution risquent de perdre tout financement. Au-delà de la querelle idéologique, c'est l'effet le plus immédiat et concret, puisque les documents budgétaires ne pourront plus parler de fœtus ou de transgenre. Les programmes sur la communauté LGBT ou l'avortement sont particulièrement visés. Comment parler des malformations de naissance causées par le virus Zika, s'interroge également le Post. Comment faire de la prévention auprès des trans sur le VIH ou la tuberculose? Ce réajustement de la langue depuis l'arrivée de Trump aux manettes, on l'a constaté dans d'autres domaines. Plutôt que d'éducation sexuelle, il est conseillé de parler d'évitement du risque sexuel, des programmes qui promeuvent l'abstinence. Et puis on l'a déjà connu sur les questions climatiques, bien sûr. Au printemps, la direction du ministère de l'Agriculture américain avait ainsi recommandé de ne plus utiliser des termes tels que changement climatique ou encore réduction des gaz à effet de serre, mais plutôt, attention, résilience aux événements climatiques extrêmes. Et pour la réduction des gaz à effet de serre, elle préconisait augmenter l'efficacité de l'utilisation des nutriments, des préconisations qui avaient précédé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On salue l'invité de la séquence interview, Frédéric Vidal, bonjour.
Bonjour.
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous étiez vous-même chercheuse, donc en biochimie, je crois, fondée sur les faits. Fondée scientifiquement sur la science, le fait de bannir ces mots, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Si effectivement c'est confirmé, c'est stupéfiant parce que c'est l'opposé de ce qu'est la science. La science, c'est tout sauf de l'idéologie. Et puis c'est pas parce qu'on fait disparaître des mots que les sujets disparaissent. En fait, c'est très inquiétant pour les scientifiques américains.
Et vous avez le sentiment que ça peut être quelque chose qui progresse dans l'idéologie générale, cette idée qu'il faut se méfier après tout, qu'il n'y a pas de fait objectif et que la subjectivité compte aussi dans l'établissement d'une réalité.
Mais disons que le rôle, réaffirmer le rôle de la science, au contraire, en tant que... En capacité de justement permettre de faire la différence entre une opinion et un fait scientifique, c'est toute ma mission. Donc je suis vraiment stupéfaite, c'est le mot.
Frédéric Vidal, merci beaucoup. On vous retrouve donc pour la séquence interview et dans le cours de ce journal. Dans le domaine de l'idéologie d'ailleurs, on peut aussi s'intéresser à cette nouvelle télévision russe qui a commencé d'émettre en français. Son nom c'est RT Russia Today, Russia Today France, qui diffuse donc des programmes sur le câble, sur le satellite, via aussi les box de certains opérateurs de télécom et sur Internet. RT et Sputnik, qui était un autre média russe proche du Kremlin, qui avait été accusé par le président Macron dans la campagne de s'être comporté comme des organes d'influence, de propagande mensongère, Abdelhak El Idrissi. Dans quelle mesure on peut dire que cette télévision est véritablement une émanation directe du Kremlin ?
La nomination des responsables à la tête des médias russes est éminemment politique, surtout dans un pays qui compte un réseau fourni d'agences de presse gouvernementales, un réseau et un fonctionnement hérité du contrôle des médias sous l'ère soviétique. Aujourd'hui encore, ces agences dépendent directement du ministère de l'Information. La patronne du réseau international Russia Today est une très proche de Vladimir Poutine. C'est notamment grâce à cette proximité que Margarita Simonian a été promue à ce poste à responsabilité alors qu'elle n'avait que 25 ans. Elle le cumule d'ailleurs avec d'autres fonctions d'encadrement dans plusieurs agences de presse. La responsable de RT France, Xenia Fedorova, connaît également les arcanes des organes de presse de Moscou. Sa mère travaillait dans la presse soviétique et au sein d'un quotidien gouvernemental. Le profil de cette génération peut se résumer ainsi: jeune, très diplômée, polyglotte et proche de Vladimir Poutine et du pouvoir moscovite. Une proximité également très idéologique. Selon des observateurs critiques du Kremlin, notamment les universitaires, le but de RT France, comme de toute cette galaxie de médias télé, radio et internet, et de proposer une vision très sombre de l'état du monde, la crise migratoire, les attentats, les journalistes n'hésitant pas à renforcer leurs reportages de musique très anxiogène. La finalité serait de rallier une partie de l'opinion publique à cette vision de la société et de favoriser l'élection de partis populistes et d'extrême droite proches du Kremlin afin d'étendre l'influence de la Russie dans le monde. On accuse le pays de vouloir déstabiliser les sociétés occidentales en commettant des piratages, notamment en France et aux États-Unis pour influencer les élections. Mais grâce à ces médias, la Russie a également bien compris l'importance de la bataille de l'opinion.
Vif échange entre Paris et Damas sur les responsabilités en Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad dénie à la France qui a, je cite, les mains couvertes de sang qui soutient le terrorisme, le droit de parler de la paix en Syrie. Réponse la nuit dernière du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui est en visite à Washington. Et quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement plus de discrétion. Et puis à l'instant, Emmanuel Macron juge inacceptable ces propos de Bachar al-Assad. Il était devant la presse après avoir reçu le secrétaire général de l'OTAN ce matin.
Je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar al-Assad. Voilà ma position. Nous avons sur le plan militaire une priorité, la guerre contre Daesh. C'est pour ça que ces propos étaient inacceptables. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Tous les autres ont eu des ambiguïtés. Tous les autres ont eu des priorités. C'était de frapper leurs opposants. Pas de frapper les terroristes, leurs opposants. Nous, nous avons été cohérents depuis le début. Parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est Daesh. Le peuple syrien a un ennemi. C'est un constat que je fais. Il y a des millions de Syriens qui vivent aujourd'hui hors de la Syrie. Ces Syriens-là ont un ennemi. Il s'appelle Bachar el-Assad. C'est la réalité.
Emmanuel Macron, donc, il y a quelques minutes à l'Elysée. Les miliciens chiites yéménites Houthis affirment avoir tiré ce matin un missile balistique en direction de Riyad. Et la coalition arabe, qui est sous la conduite saoudienne, affirme effectivement avoir intercepté un tel missile au sud de la capitale, donc Riyad. Le nouveau chancelier autrichien Sébastien Kurz, investi hier, on en parlait dans cette édition, multiplie maintenant les déclarations de fidélité à l'Union européenne. Il se rend tout à l'heure à Bruxelles pour rencontrer à la fois le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et le président du Conseil Donald Tusk, lequel lui écrivait d'ailleurs hier que l'Europe serait bien attentive au respect des valeurs européennes, du contenu des traités, mais aussi de l'esprit des traités européens. En cause évidemment le pacte de gouvernement avec l'extrême droite eurosceptique et pro-russe qui jette un doute sur le cap diplomatique de Vienne. On est à Bruxelles en direct avec Pierre Benazé. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors Monsieur Kurz va afficher d'autant plus facilement sans doute des convictions pro-européennes que les pays membres n'ont guère manifesté jusqu'à présent de désapprobation face à la composition de ce nouveau gouvernement autrichien.
Non, c'est même plutôt le contraire. En général, les capitales de l'Union qui en réagissent sont contentées d'envoyer les félicitations traditionnelles pour les nouveaux chefs de gouvernement. Il n'y a guère que la classe politique italienne qui réagit parce qu'elle apprécie peu, dans son ensemble, la volonté de la nouvelle coalition d'accorder la nationalité autrichienne aux Italiens germanophones de la région du Sud-Tirol, Alto Adige. Dans l'ensemble, on note quelques avertissements venant des institutions européennes. Vous l'avez dit, Donald Tusk ou encore Pierre Moscovici, commissaire européen, qui recommande la vigilance, ou le président des sociodémocrates au Parlement qui estime devoir brandir la menace de sanctions. Dans l'ensemble, on est tout de même très loin de la situation de 1999 et 2000 où une coalition strictement identique en Autriche avait provoqué 7 mois de sanctions de la part des autres États européens qui avaient coupé leurs relations bilatérales avec Vienne. Avec une coalition strictement identique aujourd'hui, 17 ans après, les Européens semblent cette fois-ci prêts à accorder le bénéfice du doute à la coalition autrichienne, en particulier après les propos de Sébastien Kurz, qui affirme que son gouvernement sera clairement pro-européen. Par ailleurs, le sulfureux Jörg Haider et ses louanges au Troisième Reich a disparu depuis 10 ans. Il avait d'ailleurs fini par quitter le FPE. Le FPE qui, en outre, a accepté un programme de coalition qui exclut d'une part un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et qui place la remise en cause de la politique d'immigration de l'UE dans le cadre d'un futur sommet européen. Une façon, dans ce programme de coalition, de donner des gages au reste de l'Union européenne.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Et puis le Parlement polonais a quasiment adopté une loi qui met fin à l'indépendance de la justice. Bruxelles demande au président de ne pas la ratifier. Les membres de la Commission européenne vont se réunir demain pour décider ou non de lancer des procédures qui pourraient conduire à des sanctions à l'encontre de la Pologne. Quand une série de sondages vont dans le même sens depuis plusieurs semaines, il y a sans doute un enseignement politique à en tirer. La popularité d'Emmanuel Macron est en forte hausse depuis la mi-novembre maintenant. Après avoir fortement chuté donc cet été, il gagne 9 points dans une dernière enquête, recueille désormais l'assentiment de plus d'un Français sur deux. 54% des personnes interrogées estiment qu'il est un bon président de la République. 46% pensent le contraire. C'est une enquête Odexa pour l'Express, France Inter et la presse régionale. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour. Antoine.
Commentaire donc, plusieurs facteurs qui peuvent sans doute expliquer, peuvent être invoqués pour rendre raison de cette remontée de la cote de popularité.
Oui, il y a d'abord le fait qu'il a remporté les batailles qu'il a engagées et qu'il se trouve dans une dynamique de victoire politique. Avec d'abord la réforme du code du travail, puis le projet de loi de finances avec la suppression d'impôt sur la fortune. On lui promettait une rentrée apocalyptique, des combats homériques, une potentielle alliance entre syndicats et étudiants. Finalement, rien de tout ça n'a eu lieu. Il a fait passer des réformes qu'aucun gouvernement de droite ou de gauche n'aurait pu porter. Et Jean-Luc Mélenchon a lui-même reconnu, il y a quelques semaines, que pour le moment, c'est Macron qui a le point. Il a donc pour lui cette dynamique de victoire politique associée au fait que ça correspond à ce qu'il avait dit qu'il ferait. Ensuite, on en parlait déjà hier midi, il y a le fait qu'il endosse une forme d'exercice vertical et autoritaire du pouvoir, qu'il assume une dimension monarchique à la fonction présidentielle, lui redonnant ainsi du lustre et de la sacralité, et ce faisant qu'il restitue aux Français l'image qu'ils se font ou qu'ils ont envie de se faire de la France, plus forte, plus grande, plus orgueilleuse, porteuse de messages universels. Et tout ça dans un contexte où le monde est devenu plus sombre, plus inquiétant, la menace terroriste, les outrances de Donald Trump, les manœuvres militaires et médiatiques de la Russie, la montée en puissance économique de la Chine, bref, dans ce contexte-là, l'affirmation d'une forme de leadership de la France et d'Emmanuel Macron a vraisemblablement quelque chose de rassurant pour une majorité de Français.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Frédéric Vidal, retour vers vous, ministre des Enseignements supérieurs. Vous voyez d'autres causes, vous, à cette bonne cote de popularité, enfin cette remontée depuis ces dernières semaines, après la chute de l'été ?
Non, je pense que les principales raisons ont effectivement été évoquées. D'abord, le gouvernement et le président font ce qui a été annoncé pendant la campagne. Et ça, je pense que c'est très important pour nos concitoyens. Et puis, j'allais dire que le président Macron nous a habitués à être surprenants. Et j'entendais hier les commentaires, quand un président descend dans les sondages, il ne remonte pas. Et bien voilà, c'est encore une première qu'on peut mettre à son crédit.
Voilà, un petit accroc quand même. La présidente du Conseil national du numérique, Marie Ekland, qui annonce sa démission après une semaine, après sa prise de fonction sur fond de différend avec le secrétariat d'État au numérique sur la composition de cette instance. Vous avez un commentaire à faire ?
Je l'ai appris au début de ce journal, donc j'ai pas de commentaire particulier.
Hakim Kasmi vous interroge maintenant plus précisément sur votre domaine, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Hakim.
Frédéric Vidal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cet après-midi, il y aura donc le vote solennel à l'Assemblée nationale, votre projet de loi sur l'université. Frédéric Vidal, aujourd'hui, 60% des étudiants sont en échec en première année. Comment en est-on arrivé là, d'autant que la France est l'un des pays qui a les plus mauvais résultats dans les pays de l'OCDE à ce niveau-là?
Alors, on en est arrivé là pour probablement plusieurs raisons. C'est que on s'est beaucoup intéressé, et c'est très important, à la massification de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent aux études supérieures. Mais on s'est arrêté là, si je puis dire. C'est-à-dire que la question, c'était comment faire rentrer de plus en plus de jeunes dans l'enseignement supérieur, beaucoup moins comment les faire réussir. Et donc, c'est à ce sujet que je m'attache, parce que moi, je voudrais qu'on réussisse la démocratisation de l'enseignement supérieur.
Alors, vos détracteurs disent que justement, on n'est plus dans la démocratisation, parce qu'avec l'arrivée des attendus, il y aura une sélection qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors d'abord, ce sont des débats effectivement qui ont eu lieu à l'Assemblée. Je le répète, hein, l'objectif de cette loi, c'est mieux orienter, c'est aider à réussir. Je le répète aussi, c'est plus de place à la rentrée 2018 pour accueillir les nouveaux bacheliers qui seront plus nombreux qu'à la rentrée 2017. Donc c'est avant tout ce projet-là que je porte. Et moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de pire sélection par rapport au milieu social que la sélection par l'échec. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir à se réorienter ou de reprendre ses études selon le milieu social d'où on vient.
Donc vous acceptez ce mot de sélection malgré tout ?
Non, il n'y a pas de sélection puisque l'idée c'est vraiment que les attendus informent mieux les lycéens, leurs familles et permettent aussi de commencer à discuter avec eux de ce qu'ils vont réellement trouver dans l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que, enfin, le Premier ministre l'a dit, si l'objectif avait été de mettre en place la sélection, on aurait appelé ça la sélection. D'ailleurs, dans l'hémicycle, c'était très clair, hein. Un côté m'accusait de faire de la sélection et l'autre côté me disait pourquoi vous n'en faites pas.
Alors concrètement, justement, notamment les bacs pro, les bacs techno devront avoir une remise à niveau, ça pourra durer un an ou plusieurs mois, ça demande beaucoup d'argent. Il n'y a pour l'instant que 17 universités sur 77 qui ont obtenu ce fameux appel à projet pour avoir des financements. Qu'est-ce que vous répondez aux autres, notamment quand on parle avec elles, elles nous disent, notamment les présidents, aujourd'hui, moi j'ai un système pilote, comme à Nantes par exemple, où j'ai une cinquantaine d'étudiants de bac pro et de bac techno, mais si on passe à de la massification, avec des centaines d'étudiants qui viennent de bac pro ou de bac techno, je n'aurai pas forcément les moyens de pouvoir les remettre à niveau.
Alors d'abord, je tiens à préciser que l'idée d'avoir un parcours personnalisé, c'est pour tous les bacheliers. J'estime que le bac, c'est le passeport d'entrée dans l'enseignement supérieur. Et donc, quel que soit le bac que l'on a obtenu, on a le droit de rentrer dans l'enseignement supérieur si on le souhaite. Donc les parcours personnalisés, ils sont vraiment à destination de l'ensemble des étudiants. Et ils ont vocation à lutter contre l'échec. De la même façon que l'orientation en amont a vocation à lutter contre l'abandon en première année. Ensuite, je rappelle qu'effectivement, il y a déjà eu 130 millions d'euros qui ont été octroyés pour revoir les premiers cycles universitaires. Le deuxième cycle de financement a été mis en place la semaine dernière. Donc d'autres universités, si elles sont prêtes, peuvent le proposer. Et il y a aussi, pour arriver aux milliards d'euros sur le quinquennat, 500 millions d'euros en budgétaire, c'est-à-dire 20 millions d'euros en tiers d'année sur 2018, l'équivalent de à peu près 400 créations d'emplois, pour que l'on soit en capacité de mieux accompagner à la fois les nouveaux étudiants qui arrivent et de permettre à ce qui existe déjà de mieux se déployer.
Alors, est-ce que cela suffira vraiment quand on sait qu'il y avait encore 40 000 étudiants de plus cette année, 28 000 de plus l'année prochaine, un étudiant coûte environ 10 000 euros par an à l'État? Est-ce que cela suffira? Pas forcément.
Alors, le calcul de 10 000 euros par an à l'État, on peut en parler, hein, on est vraiment sur du coût complet, c'est-à-dire ça comprend aussi les infrastructures, etc. Chaque nouvel étudiant qui arrive à l'université ne coûte pas 10 000 euros à l'université. Indépendamment de ça, hein, la possibilité, c'est d'avoir 20 000 places supplémentaires dès la rentrée 2018 dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Ça concerne aussi les BTS et les licences générales, mais aussi les IUT. Donc c'est vraiment partout où on a observé l'an dernier qu'il y avait des demandes qui n'avaient pas pu être satisfaites.
Alors justement, Frédéric Vidal, vous allez présenter mi-janvier, le 22, il y aura la mise en place de Parcoursup, qui va remplacer le triste APB. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas des milliers d'étudiants sur le carreau comme en cette rentrée, à la rentrée 2018?
Alors, tout a été pensé dans cette nouvelle plateforme pour qu'on soit capable de remettre de l'humain. Il y aura notamment la mise en place de commissions mixtes entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, pilotées par les recteurs, qui seront en charge de faire des propositions le plus rapidement possible à l'ensemble des lycéens avant le bac, qui n'aurait fait que des demandes sur des filières sélectives et qui se retrouverait sans proposition. Donc c'est vraiment un accompagnement beaucoup plus personnalisé et un accompagnement qui va se faire dès le 22 mai. L'objectif, c'est bien que chaque bachelier qui souhaite accéder à l'enseignement supérieur ait une proposition et y trouve sa place pour y réussir.
Et est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'autonomie des universités, qui est en place depuis maintenant quelques années, c'était Valérie Pécresse qui l'a mise en place, que les universités un peu élitistes, finalement, ne fassent pas semblant, artificiellement, de dire qu'elles n'ont plus de place pour se réserver des places au dernier moment pour les étudiants qu'elles estiment, entre guillemets, les plus méritants?
C'est le rôle régulateur de l'État et c'est pour ça que cette mission a été confiée au recteur.
Frédéric Vidal, merci. Vous venez du monde de la recherche, on l'a dit tout à l'heure. Quelles sont vos impressions de ministre depuis ces 7 mois maintenant que vous êtes au gouvernement?
bien
c'est quelque chose vous a surpris, vous a paru plus compliqué que prévu?
Alors l'intérêt, je pense, c'est que comme quand on est dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, on apprend en permanence. Je me suis mise dans cette configuration, apprendre les nouveaux codes. Et voilà, en tout cas, c'est une mission qui est enthousiasmante.
Vous avez des comptes bancaires aussi à Monaco, paraît-il, qui n'avaient pas été déclarés, donc c'est réglé. Enfin, vous avez
répondu
déjà sur France Info.
Pas du tout, en fait. C'est pas qu'ils n'avaient pas été déclarés. Ils ont été déclarés, mais par contre, ils ne sont pas communiqués par la haute autorité. Je ne sais pas pourquoi. Il se trouve que mon mari travaille à Monaco et que j'habitais Monaco avant de devenir ministre. Maintenant, j'habite Paris.
Voilà, j'ai un peu plus de 30 000 euros au total sur cet ensemble de comptes.
C'est ça, à peu près.
Merci beaucoup, Frédéric Vidal, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'être venu dans le studio de France Culture. Un tout petit mot du temps, gris partout, sauf près de la Méditerranée, les températures de 5 à 12 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Stanislas Vazak.